franceinter.fr.
Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
Dans la presse ce matin, à deux pas du vide.
La photo de Marc Chaumeil, page 12 de Libération, est prise de loin. On voit le corbillard, une soixantaine de personnes autour de la tombe, le petit cercueil blanc et la terre qui va bientôt le recouvrir. C'était hier aux alentours de 13h à Vissoux dans l'Essonne. L'inhumation de Maria Francesca, bébé rome de 2 mois et demi qui s'est éteinte d'une mort subite quelques heures après Noël. On reproche souvent aux médias leur complaisance pour les sujets morbides. Mais finalement, on ne voit pas souvent dans les journaux des photos comme celle-ci, scène pourtant quotidienne d'un enterrement. Il a fallu cette controverse, le refus au moins dans un premier temps de la mairie de Champlain d'inhumer la petite fille. La mort mise à distance, de manière particulièrement choquante dans ce cas précis. Pour Libé, le directeur général des services funéraires de la ville de Paris, un garçon qui s'y connaît, analyse l'évolution de la société sur ce sujet. D'abord, il est relativement fréquent que des municipalités refusent d'organiser les obsèques de personnes mortes sur leur territoire, des SDF en particulier, à cause du coût, notamment en périphérie des métropoles où sont les hôpitaux et où meurent souvent les sans-abri. Le sexe et la mort, dit ce spécialiste François Michonnerard, ont connu des destins contraires depuis le XXe siècle. Le premier est montré de manière ostentatoire aujourd'hui alors qu'il était caché autrefois. Pour le second, c'est l'inverse. On passait il y a un siècle un tiers de sa vie en deuil. Quand on perdait un enfant, on était pris en charge par le corps social. Aujourd'hui, c'est une fausse mort qui est omniprésente dans les séries, les jeux vidéo ou alors à la télévision, des morts venues de l'autre bout du monde, pas des proches. Avant, on mourait chez soi, autour des siens, veillé. Aujourd'hui, c'est à l'hôpital et seul. Autre signe de cette mise à distance, la crémation, dont le taux est passé en une génération de presque rien, à un tiers après les décès. Plus de passage par un lieu de culte. Les personnes disparues ne sont plus un poids pour leurs proches. Société où le corps est maîtrisé, rationalisé. La crémation est dans cette logique mise à distance. Et pourtant, se jouent bien des enjeux de société aussi dans les cimetières. Le développement des carrés confessionnels musulmans, par exemple, j'y vois, dit François Michonnerard, un vecteur d'intégration. Les musulmans d'origine étrangère, au lieu de rapatrier leurs proches au pays, s'enracinent sur la terre d'immigration.
Dans la presse également, commentaire après l'intervention de François Hollande hier matin sur France Inter.
Nos jolis studios rouges partout en photo dans les journaux. À deux pas du vide, c'est ce que reprochent les éditorialistes au président de la République ce matin. Offensif, omniprésent, positif, assumant les choix et les ratés, mais pas d'annonce, pas de projet nouveau. C'était un président beau parleur pour Yann Marek dans Midi Libre, excellent commentateur de l'actualité pour Dominique Garraud dans la Charente Libre. L'objectif n'était pas de convaincre, selon Philippe Vauquen dans le Républicain Lorrain, mais d'occuper le terrain. Cela dit, l'abondance du commentaire, reprend Garraud dans la Charente Libre, avait pour effet pervers de jeter une lumière crue sur une supposée inaction gouvernementale. Car le président n'a plus d'atout dans sa manche, estime Pascal Coquille dans les dernières nouvelles d'Alsace. Les grandes réformes du quinquennat ont été mises en œuvre, il n'y a plus tellement de leviers à actionner. Alors certes, on peut dire avec Michel Hurvoy dans Ouest France qu'on a suffisamment critiqué sa communication passée pour admettre qu'elle s'améliore enfin. Oui, Hollande y croit toujours, titre La Dépêche du Midi. Mais il prend le risque de la répétition, titre du Monde, risque d'être coincé dans les sables mouvants de la mi-mandat pour Guillaume Tabar dans le Figaro. Est-ce que j'ai pris le bon chemin? Nous le verrons à la fin, déclarait hier le chef de l'État sur France Inter. Il voit la lumière au bout du tunnel, croit comprendre Maud Verniolle dans l'Humanité, avant d'ajouter, pour les Français, c'est toujours le noir complet.
La Grèce à la une de la presse.
À la une de l'Humanité, du Monde, du Figaro. Et cette question, peut-elle, va-t-elle sortir de la zone euro si la gauche radicale l'emporte aux législatives du 25 mars? C'est peu probable. D'abord parce que juridiquement, ce n'est pas possible. Ou alors, il lui faudrait carrément sortir de l'Union européenne, mais quitter simplement la zone euro. En l'état des textes, c'est impossible, selon l'opinion. Ensuite, parce que le parti de gauche radicale, Syriza, en tête des sondages, ne le souhaite pas. L'Humanité détaille son programme ce matin. Renégociation, restructuration de la dette, bouclier social pour les plus pauvres, relance de l'économie. Programme dont le coût est estimé à 12 milliards d'euros par Le Monde. La renégociation, au passage, ne serait pas une partie de plaisir, car les Européens prêtent déjà dans des conditions avantageuses, précisent les Échos, mais pas de sortie de l'euro prévue. Et puis, ce ne serait pas de l'intérêt de l'Union européenne. Le Brexit, exit, sortie de la Grèce reste une mauvaise idée, estiment les Échos. Les États européens détiennent aujourd'hui 221 milliards d'euros de dettes grecques, l'Allemagne et la France en premier lieu. Laisser partir Athènes, ce serait tirer un trait sur ses factures et aussi reconnaître que le programme d'austérité imposé aux Grecs est un échec. Car la Grèce est bien à deux pas du vide. Un économiste, Bertrand Chokran, résume la situation sur le point.fr. En 2009, la dette grecque était de 129% du PIB. Aujourd'hui, malgré tous les plans de soutien, elle est de 175%. Alors pour cet économiste, la Grèce fera défaut de toute façon cette année. Elle est censée rembourser 20 milliards d'euros dans les mois à venir. Où les trouverait-elle? Elle ne paiera pas, elle en est incapable. Le traitement drastique infligé au pays au mépris de la science économique en est la cause. À deux pas du vide, c'est le destin des pilotes automobiles qui flirtent avec la mort sur les circuits. Dans les journaux ce matin, hommage à Jean-Pierre Beltoise, disparu à 77 ans, surnom Bebel. Il y a de cela sur la photo de Giancarlo Botti qui date de 71. Il est avec son épouse Jacqueline Sever. C'est dans Libération. Jacqueline Sever, sœur d'un autre grand pilote français, François Sever. Beltoise a des faux airs de Belmondo. Elle, une allure à la Jean Seberg. C'était un an avant son grand fait d'armes, victoire au Grand Prix de Monaco sous la pluie. Les noms de ses adversaires sont comme un générique des années 60-70 pour les amateurs de course auto. Jackie X, Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, Claire Regazzoni. Beltoise qui conduisait avec un bras gauche abîmé dans un accident au début de sa carrière. Au réveil à l'hôpital, il avait demandé au médecin trois choses. Que je puisse prendre mon passeport dans ma poche, me servir d'une fourchette et surtout tenir le volant d'une voiture de course. La légende veut qu'il ait perfectionné son pilotage en conduisant la camionnette 203 de la boucherie familiale. C'était un livreur express, adepte du créneau après demi-tour au frein à main. Beltoise, une légende française, titre l'équipe, héros de toute une jeunesse vibrante et passionnée, comme pouvait l'être celle des années 60 au seuil des 70s. À demain.
Merci, c'était Bruno Duvic pour la revue de presse sur Inter.